Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ?» Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu.
Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. En approchant de Pâques, nous essayons de faire examen de conscience, nous regardons nos cœurs et nous y voyons beaucoup de péchés. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas péché? Il y a des péchés plus graves que d'autres, sans doute, mais tous les péchés sont graves. Parce que tous les péchés sont des offenses à l'amour de Dieu, un amour qui est infini. Plus grand encore que le péché, l'infini de la miséricorde de Dieu. Moi non plus, je ne te condamne pas. Combien de fois nous nous sommes condamnés nous-mêmes? Combien de fois nous avons condamné les autres? Nous les avons enfermés dans un péché que nous avons considéré comme important. Peut-être il l'était. Et nous avons presque voulu que Dieu condamne ça. Nous avons du mal avec la miséricorde, avouons-le. Nous avons du mal avec la miséricorde parce que nous réclamons la justice. Toute injustice doit être réparée. Nous avons du mal à considérer que les autres pourraient s'en sortir sans finalement grande affaire. Nous aimerions bien réparer par nous-mêmes nos péchés. Mais le pécheur est libéré par la tendresse de Dieu. Comme les Hébreux ont passé la mer Rouge à pied sec. On en avait le souvenir dans ce passage d'Isaïe tout à l'heure. Ils sont passés à pied sec et tous les poursuivants ont été engloutis par la mer. Les Juifs sont rentrés de captivité parce que les torrents ont coulé au désert. Le Seigneur a nourri son peuple dans le désert. Dimanche dernier, c'était le fils prodigue qui rentrait à la maison parce qu'il avait faim et qui découvre l'infinie miséricorde de son Père qui le serre contre lui, qui est remué jusqu'aux tripes, remué dans ses entrailles. Le frère aîné, que nous sommes souvent, trouvait que c'était un peu facile. Et pourtant, le frère aîné, lui aussi, est aimé, aimé infiniment. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il faut reprendre la scène que nous avons aujourd'hui. Jésus est au temple. Il enseigne au milieu des pécheurs, des petites gens. Les pharisiens, les grands prêtres, les scribes, les responsables religieux cherchent déjà à le tuer, cherchent à le saisir, cherchent à le piéger. Et au moment où il est en train d'enseigner avec un petit groupe autour de lui, on lui amène cette femme. On se demande bien d'ailleurs où est le pécheur qui a péché avec elle. Parce que la loi d'ailleurs imposait non seulement de lapider l'adultère femme, mais l'adultère homme qui avait péché avec elle. Mais ça, ce n'est pas le problème de ceux qui veulent piéger Jésus. En fait, la femme adultère n'intéresse pas les gens qui la condamnent. C'est Jésus qu'on veut condamner. Jésus, lui, baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Il ne veut pas répondre violence contre violence. Il s'est penché, il écrit sur le sol. Peu importe ce qu'il écrit, il essaye de plonger ses accusateurs dans le dedans, dans leur cœur. Et parce qu'on persiste à l'interroger, il se redresse et leur dit, « Eh bien, puisque vous le voulez, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. » Et à ces mots, ils s'en vont tous, à commencer par les plus vieux. Quand on est plus vieux, on sait mieux la gravité de son péché. En vieillissant, on prend conscience qu'on est beaucoup plus pécheur qu'on ne pensait quand on était jeune. Et l'homme, Jésus se retrouve seul avec cette femme. En fait, pas tout à fait seul. Les pécheurs, les petites gens, les gens qui l'écoutaient sont toujours autour et guettent un peu parce que on se demande comment Jésus va réagir, parce qu'au fond, on se sent tous, peut-être pas adultères, mais on se sent tous pécheurs. Et Jésus a cette question étonnante, « Alors, personne ne t'a condamné ?»« Non, personne. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. » C'est important cette remarque de saint Jean. Il baisse les yeux, il se penche vers le sol. Vous savez, cette photo de Jésus, j'ose dire ça, sur le linceul de Turin qui nous est conservé, il a les yeux fermés. J'ai toujours été très impressionné par cette image. Il baisse les yeux pour ne pas voir le mal, c'est en toute lettre dans l'Écriture quelque part. Quand on accuse, on regarde, on fixe du regard parce qu'on veut percer ce regard. Jésus baisse les yeux parce qu'il nous regarde avec un regard intérieur. Il nous regarde du dedans. Alors on peut dire, comme le frère aîné le dimanche dernier, et comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, finalement c'est un peu facile. Le pécheur s'en sort bien. Ah oui, mais il ne faut pas oublier quand même que Jésus en est mort. C'est Jésus qui a pris sur lui mon péché. C'est Jésus qui a pris sur lui le péché de la femme adultère. C'est Jésus qui a pris le péché de toute l'humanité dans tous les temps. Il se présente comme le pécheur universel. Et de fait, il doit mourir parce que justice doit être faite, c'est vrai. C'est vrai, il doit mourir. Et il mourra. Il mourra de son péché, non pas le sien, puisqu'il est innocent absolument, mais de mon péché, il mourra. Comme dit saint Paul, il a été fait péché pour nous. L'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. C'est lui qui meurt, c'est lui qui est immolé, c'est lui qui offre sa vie en rançon pour la multitude. C'est lui qui se présente devant Dieu, Père, comme le seul et unique pécheur. Moi, quand j'entrerai dans la salle du trône, il me laissera passer et il arrêtera l'accusateur. Laisse-le passer, j'ai payé pour lui, la dette est payée. De fait, c'est le Seigneur qui paye la dette totale. Saint Paul en a été bouleversé, qui persécutait les chrétiens et qui a été sur la route de Damas terrassé par la miséricorde de Jésus. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul a été renversé par cette découverte de la miséricorde de Jésus, de la bonté de Dieu. Et il n'a plus qu'une pensée, il n'a plus qu'une exigence. Connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Et Paul ne veut pas seulement regarder en spectateur la passion de Jésus, il ne veut pas regarder seulement en spectateur la façon dont Jésus porte son péché, il veut s'unir à la passion de Jésus. Connaître Jésus-Christ et m'unir aux souffrances de sa passion. Est-ce que je veux me lancer dans la Semaine Sainte en spectateur ? C'est beau, c'est très émouvant le spectacle de la passion, c'est très bouleversant. Mais si je suis un spectateur, je resterai extérieur à cette réalité. Le Seigneur m'invite à entrer dans sa passion, avec lui, par lui, pour que je puisse avec lui être victorieux. Oui, il me pardonne tout, mais je dois entrer dans cette réalité de l'amour vivant, de l'amour en acte. Autant qu'il est possible, je veux moi aussi m'unir aux souffrances du Christ, parce que je veux moi aussi vivre en donnant ma vie. C'est ça qui donne du sens à tout le reste. Et avec saint Paul, je voudrais maintenant regarder vers l'avant, en oubliant tout ce qui est passé, en regardant ce que j'ai aimé autrefois comme des balayures, comme des pertes, pour la seule richesse qui compte désormais, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de l'amour infini qu'il a pour moi. « Va, ne pêche plus, dit Jésus à la femme. Va de l'avant désormais, la vie est devant, ne regarde pas en arrière. Va. » Dans le désert, sans cesse, les Hébreux étaient tentés de retourner en Égypte. Parce que finalement, le péché avait du bon. Si le péché n'avait pas de bon, on n'y retournerait pas. Le péché est terriblement tentant. Le péché a cette part terrible qu'elle nous séduit parce qu'il y a un certain plaisir à pécher. Un plaisir très amer parce qu'après avoir péché, le réveil est brutal. Le réveil est toujours terrible. Le péché ne conduit pas au bonheur. Le péché conduit à la mort et au malheur. Va de l'avant désormais, ne pêche plus. Il y a un proverbe extraordinaire dans la Bible, dans le livre des Proverbes justement, c'est le chien qui retourne à son vomi. Ne retourne pas à ton péché. Le péché qui est pardonné n'existe plus. Le péché qui est pardonné est dissous par l'amour de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Nous en gardons la mémoire parce que le jour où nous sommes tentés de condamner les autres, le jour où nous sommes tentés de regarder les autres de haut, notre mémoire nous dit doucement, rappelle-toi que toi aussi, tu es capable. Nous gardons la mémoire de nos péchés, non pas pour cultiver la culpabilité du péché, puisque le péché est dissous. Nous gardons la mémoire pour ne pas fanfaronner, pour ne pas nous glorifier, pour rester dans l'humilité. Nous allons dans un instant renouveler les promesses du mariage de tous ceux qui sont mariés ici. Dans le mariage, il y a beaucoup de pardon à donner. Il y a beaucoup d'égratignures, quelquefois des vraies blessures qu'il faut pardonner. Nous l'avons dit beaucoup avec ceux qui préparent leur mariage. Tout peut être pardonné, tout, absolument tout, puisque Dieu pardonne tout. Mais le pardon coûte cher, le pardon demande de tout donner. L'amour exige tout. Et l'amour se contente d'un rien, un tout petit rien, une caresse, un regard, un baiser, une toute petite chose. Mais qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont renouveler les promesses de leur mariage, qui vont être renouvelés dans la grâce du sacrement de mariage, puissent regarder en avant, non pas en arrière, en avant. Parce que l'amour est devant, parce que la vie est devant. Notre monde et quelquefois notre Église est un peu campée en arrière, avec un regard nostalgique vers le passé. Il faudrait reconstruire ce qui est détruit, il faudrait refaire comme avant. Non, on ne refait pas comme avant, on fait ce qui advient, on construit un monde qui advient. Personne ne peut dire à quoi ressemblera le monde de demain. Et de fait, comme ces temps-ci, nous sommes quelquefois inquiets du monde qui advient. Mais nous sommes chrétiens parce que nous avons l'espérance que Dieu construit ce monde avec nous et nous avec lui. Et ce monde est beau parce que ce monde, c'est le monde de Dieu qui vient. C'est le royaume de la justice et de l'amour. Justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent. Demandons à la Vierge Marie qui regarde toujours vers l'avant. Elle est conduite par l'espérance de la victoire. L'espérance qui n'est pas l'espoir, l'espérance qui est une certitude, c'est le moteur principal de la vie. Demandons au Seigneur pour nous-mêmes, pour notre pays, pour notre monde, pour notre Église, demandons la grâce de l'espérance pour toutes nos familles. Amen.